n'a prédestiné personne à la perdition et que tous étaient écrits, puisqu'il les a fait naître, dans ce livre. Ils étaient créés pour la vie et non pas pour la mort. Mais il est possible que par notre volonté propre, on s'oppose à Dieu. Et alors, c'est cette opposition au Seigneur qui pourrait faire que nous soyons effacés du livre de vie. Mais pour être effacés, il fallait que nous soyons écrits, mais pas inscrits. De sorte qu'on peut penser que tous ont été inscrits dans le livre de vie, mais que certains s'étant opposés à la pensée du Seigneur ont pu être effacés. Alors la question pour nous, c'est de veiller, de marcher dans la vigilance. Et alors, dans ce que nous verrons encore demain, la phrase que nous trouvons dans l'Apocalypse vient nous rappeler que ce qui permet aux hommes de vivre d'une manière agréable à Dieu, c'est l'œuvre du Christ et non pas leur seule bonne œuvre. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous permettent d'être dans le livre de vie, c'est l'amour de Dieu. Et si vous lisez le chapitre 15 de Jean, qu'est-ce que vous trouvez? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous est établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est clair. C'est dans le chapitre 15 de Jean. Mais si on est dans le Christ, c'est pour porter du fruit. Et si on n'en porte pas, qu'est-ce qui arrive? Dans le chapitre, on est retranché. Je suis le cep et mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça, c'est pour celui qui ne porte pas de fruits. Et un exemple d'un homme qui a été retranché, c'est qui? C'est Judas. Mais celui qui porte du fruit, qu'est-ce qui lui arrive? Il est émondé afin qu'il porte plus de fruits. Alors, on est réconcilié automatiquement avec toutes les épreuves que l'on peut avoir dans la vie, puisqu'on les prend comme des actes de Dieu pour notre bien, en vue que nous portions plus de fruits. Et pas seulement plus de fruits, mais plus loin, il est dit qu'il veut que nous portions beaucoup de fruits. Et enfin, dans ce chapitre 15, il voudrait que nous portions du fruit qui demeure. Maintenant, il y a une autre question ici Que pensez-vous des chrétiens refroidis, éloignés du Seigneur? Est-ce qu'ils sont dans le livre de vie ou dans le livre de la terre? Qu'est-ce que l'on peut répondre? Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'on cherche? Cherchez les choses qui sont en haut. C'est absolument clair. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Maintenant, si vous vous attachez aux choses de la terre, si vous ne pensez qu'aux choses de la terre, malgré toutes les connaissances que vous avez du Seigneur, vous êtes sur le chemin de la perdition. C'est ce que vous lisez dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Paul dit, je vous le dis en pleurant, il y en a parmi vous qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Leur gloire est dans leur honte. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors ils sont de la terre, ça c'est clair, même s'ils professent le christianisme. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce n'est pas maintenant que nous pouvons paraître dans le monde. Maintenant, notre maître est crucifié encore. Et ses disciples ne peuvent pas être traités mieux que leur maître. C'est tout à fait normal que nous soyons aussi crucifiés. Puis il est parlé ici d'Hébreux 10. Verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura estimé profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, c'est-à-dire mis à part, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, est-ce que vous allez rencontrer Dieu comme un père ou comme un juge? Celui qui a accepté le Seigneur et qui marche dans les traces du Seigneur, il connaît dans sa vie de tous les jours Dieu comme quoi? Comme un père. Et comme je l'ai souvent souligné, c'est un père qui a le cœur d'une mère, comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolé. Donc il n'est plus question de rencontrer Dieu comme un juge, puisque celui qui croit au Seigneur Jésus est passé de la mort à la vie et il ne vient pas en jugement. Tu voulais dire?
Oui. C'est une question que je dis de l'époque.
Comment?
C'est une question à vous poser.
Oui.
Quand on pose cette question-là, je la pose à plusieurs des personnes qui regardent une réponse. Dieu qui dit qu'il veut que personne soit perdu. En même temps, il dit que c'est lui qui choisit. Puis dans la main, ça dit que personne ne cherche Dieu. Comment tu expliques ça?
Mais écoutez, sur la question de la prédestination, Dieu nous laisse la liberté. Il ne nous contraint pas. Mais quelqu'un qui vient nous dire, ben, si je suis prédestiné, ben, je serai quand même sauvé. De sorte que c'est inutile que je m'en fasse. Vous croyez qu'il parle par l'Esprit de Dieu, cet homme? Non. Le diable a fait de la prédestination un sujet de choix pour troubler les âmes et les empêcher de venir à la connaissance de la vérité. Quand quelqu'un me dit, mais moi, je ne suis peut-être pas prédestiné. Et alors on voit cette personne qui continue de vivre dans le péché, qui continue de vivre selon sa propre volonté. Je lui dirai, est-ce que tu es déjà allé à Jésus? Est-ce que Jésus t'a repoussé? Parlez à la conscience cette personne. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Mais toute l'Écriture vous dit, et ce n'est pas moi qui vais te répondre, c'est toi qui dois trouver dans l'Écriture la réponse à ta question. Tu dois être versé dans les Écritures pour pouvoir savoir par le Saint-Esprit quelle est la réponse à cette question. Dieu vous laisse la liberté, il ne vous contraint pas. Et Jésus a pu dire, alors qu'il a voulu sauver les hommes, que de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Alors, est-ce que vous croyez que le Seigneur va obliger quelqu'un? Non, ce n'est pas la méthode du Seigneur. Il vous offre le salut. Maintenant, si vous ne le voulez pas, c'est vous qui lui avez dit non. Et le péché, c'est de dire non à Dieu et à sa volonté. Tandis que si vous êtes soumis au Seigneur, eh bien, il vous éclairera. On a donné cet exemple d'un homme fatigué, chargé d'un pesant fardeau, le fardeau de ses péchés, tout ce que vous voulez, de ses soucis, et il marche sur un chemin rocailleux, difficile, mais il arrive à un certain endroit où il y a une maison avec une porte, et au-dessus de la porte, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, tu es dans cet état-là, fatigué, chargé, tu vois cette inscription, et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça te concerne ou est-ce que ça ne te concerne pas? Si tu te sens concerné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer. Mais à l'intérieur, quand tu es entré, tu vois un autre écriteau, vous étiez élu en lui dès avant la fondation du monde. Vous apprenez que vous étiez élu prédestiné, mais après avoir pris, vous, votre décision. Comprenez-vous? Mais si vous voulez passer, bien vous passez, et vous ne connaissez pas le repos. Mais le salut, il n'est qu'en Jésus. Et c'est cela que vous devez bien comprendre. Et ce qui m'a navré, c'est ce que Jean-Paul II a fait à Assise. Vous savez ce qu'il a fait? Dans cette ville d'Assise, il a voulu réunir toutes les religions, Bouddha et autres. Qu'est-ce qui est arrivé récemment à Assise? Un tremblement de terre. Et qu'est-ce qui a été démoli? L'église. C'est, on ne se moque pas de Dieu. Et si vous mettez Bouddha au même rang que Jésus, tôt ou tard, le Seigneur va manifester sa colère. Et je voudrais que vous soyez convaincus de cette colère de Dieu. Car lui fait tout pour que nous échappions à la colère de Dieu. Moïse savait ce que c'était que la colère de Dieu. Et il a tout fait pour aider ce peuple à éviter la colère de Dieu. Et Paul, quand il a parlé aux Philippiens, aux Thessaloniciens, il aimait leur dire qu'ils avaient reçu la parole, qu'ils s'étaient détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui nous délivre. De quoi? De la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais croyez-le, la colère va se révéler du ciel. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que au fond, il n'y a plus de remède. Et alors, ce que nous avons devant nous pour le monde, c'est cette colère de Dieu. Alors, il nous faut être sages. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène à ne plus aimer la personne du Seigneur? C'est quoi? C'est les choses de la terre. Nous aimons autre chose que la personne du Seigneur. Et je dois toujours veiller dans mon propre cœur. Qui est-ce qui occupe la première place? Qui est-ce qui est le premier dans ma vie? Ma femme? Mes enfants? Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, nous les aimons, oui. Mais ce n'est pas les membres de ma famille, non, qui comptent d'abord. C'est le Seigneur. Et c'est au travers du Seigneur que je peux aimer ma femme, que je peux aimer mes enfants, mes petits-enfants et mes 5 arrière-petits-enfants. Mais c'est toujours d'abord le Seigneur. Et il nous faut savoir résister à nos enfants, à nos petits-enfants. Je ne parle pas encore des arrière-petits-enfants. pas besoin de résister beaucoup. Figurez-vous que j'ai reçu une bonne nouvelle l'autre dimanche. Une de mes petites filles, qui est professeure à Lausanne, qui a 30 ans, me téléphone, puis elle me dit, papy, tout, tu sais, c'est formidable. Notre petit Timothée, il a trouvé un petit Nouveau Testament des Gédéons. Vous avez déjà vu le petit Nouveau Testament des Gédéons? Et il a tellement aimé ce petit Nouveau Testament, il a 2 ans et demi, qu'il est allé vers sa mère, et il lui a dit, maman, je veux que tu me lises là-dedans tous les jours. Elle ne lisait plus son Nouveau Testament. Et c'est ce petit Timothée. Alors elle était étonnée. Je lui ai dit, il s'appelle Timothée. La gloire de Dieu. Mais vous voyez ce que Dieu peut faire par un petit gars. Et puis il a dit, quand tu ne pourras pas me lire, c'est papa qui me lira. Et son père, eh bien, il vient d'où? De Yougoslavie. Et alors, donc, par nos enfants, nos petits-enfants, Dieu peut faire son œuvre. Il emploie qui il veut. Alors, réjouissez-vous, le Seigneur n'a pas fini son œuvre, ni dans vos vies, ni dans celle de vos familles. Mais je voudrais que vous ayez des certitudes. De quoi pouvons-nous être certains ce soir? Est-ce qu'on peut avoir des certitudes? Parce que, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors nous les prenons comme les paroles de Dieu. La première de ces certitudes, la première chose dont nous devons être sûrs, c'est de notre salut. Et je l'ai cité souvent, l'expérience de l'aveugle né, qui peut dire, une fois qu'il a obéi au Seigneur, qui lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, il y va, et il revient, voyant. Alors on discute à son sujet. Puis on met en doute que c'était lui qui était aveugle. Et qu'est-ce qu'il leur dit? J'étais un aveugle. On lui critique le Seigneur, on lui dit que celui qui lui a parlé est un pécheur. Et qu'est-ce qu'il dit? S'il est un pécheur, je le sais. Hein? Mais ce que je sais, c'est que j'étais un aveugle et que maintenant, je vois. C'est la première certitude. Est-ce que vous l'avez, cette certitude? Qu'avant, vous étiez aveugle. Que vous ne voyiez pas clair. J'étais un aveugle, mais maintenant, je vois. Deuxième certitude. Quand l'œuvre de Dieu se fait en nous, qu'est-ce que l'on apprend avec certitude? Chapitre 10 du livre de Jérémie, verset 23. Il nous est dit, je sais que la voix de l'homme n'est pas à lui, et qu'il n'appartient pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas. On apprend, c'est la deuxième étape, la deuxième certitude, quand on est sauvé, que ce n'est plus nous qui allons nous conduire, mais que nous allons nous laisser guider par le Seigneur. Je sais que la voix de l'homme n'est pas à lui. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas. Alors, qui va me diriger? C'est le Seigneur. Hein. Troisième certitude que nous devons reconnaître, que nous devons apprendre. Chapitre 7 des Romains. Je sais qu'en ma chair, il n'habite pas de bien. C'est la certitude du croyant qui fait l'expérience que vraiment, la conversion même n'a pas changé sa chair. La chair reste la chair. Et la chair, elle est inimitié contre Dieu. De sorte qu'il n'est pas question de vouloir améliorer la chair. On se fait des illusions. Je sais que quand ma chair, il n'habite point de bien. Romains 7, verset 18. Et j'arrive alors à la quatrième certitude qui me rassure. C'est le « je sais » de Job au chapitre 19e, au verset 25e. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier sera debout sur la terre. S'il n'y a rien de bon en moi, je sais que tout le bien est dans le Seigneur. » Alors je me tourne vers le Seigneur éperdument. Et je sais qu'il est vivant. Alors je vis de qui? De sa vie. Et puis, la vie continue. Nous avons des épreuves. Mais quelle est notre certitude? Dans la vie spirituelle, je sais que malgré tout ce qui m'arrive, tout contribue à mon bien. Ecclésias chapitre 8, verset 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et prolonge ses jours, je sais cependant que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu et si vous voulez marcher avec lui, vous avez la certitude que tout ira bien, même si tout vous est contraire. C'est un temps qu'il nous faut traverser, mais où notre foi ne peut que grandir. Et alors, on retombe dans Job, qui peut s'écrier à la fin de toutes ses épreuves, « Je sais que tu peux tout !» Job 42. « Et que rien n'est trop difficile pour toi. » Est-ce que vous avez cette certitude? C'est cela qui devrait nous caractériser. Vous avez une épreuve, vous allez vers le Seigneur. Vous ne murmurez pas, mais vous vous posez cette question, comment Seigneur vas-tu me délivrer? Comprenez-vous? Vous lui manifestez votre confiance. Comment vas-tu t'y prendre pour me délivrer? Voulez-vous des délivrances? Allez vers le Seigneur. Et alors vous arriverez au soir de la vie avec la certitude qu'avait l'apôtre Paul, qui avait devant lui la mort, et qu'est-ce qu'il disait? Je sais qui j'ai cru. Ou je sais en qui j'ai cru. Mais je sais qui j'ai cru. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. Je sais qui j'ai cru. Et qu'est-ce qu'il était, ce Paul, avant sa conversion? Il était Saul de Tarse, un persécuteur des chrétiens, qui voulait anéantir le christianisme. Il était absolument sincère, il croyait qu'il défendait la cause de Dieu, puis voilà qu'il a dû apprendre que sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous pouvez être sincère, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Sincérité n'est pas synonyme de vérité. Alors remettez-vous entre les mains du Seigneur. Et si vous êtes élu en lui, dès avant la fondation du monde, qu'est-ce qui doit caractériser votre vie? Si vous vous réclamez du Christ, si vous êtes élu, qu'est-ce qui le manifeste? Je prends Colossiens, verset 12 du chapitre 3. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Vous êtes élus? Élus de Dieu? Alors, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Qu'est-ce qui doit vous caractériser? D'entrée de miséricorde. Dieu est-il miséricordieux? Oui. Vous êtes l'enfant de Dieu, vous êtes miséricordieux. De bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant les uns les autres. Voilà ce qui caractérise les élus de Dieu. Je vais reprendre la Bible que vous possédez comme traduction, mais c'est la même chose. Verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, j'ai paix règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Mais comment est-ce qu'elle peut demeurer en nous dans toute sa richesse? C'est si nous la lisons. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, vous savez, ça va loin, hein, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut mêler le Seigneur Jésus à tout? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Voilà ce que la parole nous dit. Et voyez-vous, vous devez être formé par la parole. Ce qui doit vous caractériser, c'est la parole. Pas ce que moi je dis, mais ce que la parole vous enseigne. Alors je serai tranquille pour vous et je continuerai à prier pour vous. Maintenant, l'heure de la collation est officiellement arrivée. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir à la fin de cette journée pour ce que tu avais été pour nous, les uns les autres, et nous comptons encore sur cette nuit, sur le sommeil que tu voudras nous donner, et même sur ce que tu peux nous dire, même dans notre sommeil, car tu nous dis que tu en donnes autant à tes bien-aimés dans leur sommeil, qu'il en soit ainsi cette nuit. Et que la journée de dimanche soit vraiment, pour nous tous, la journée du Seigneur. Amen. Bien, chers amis, je veux espérer que vous avez passé une bonne nuit, que Dieu vous a donné du repos, et que vous connaissez sa paix, sa joie, au fond, tout ce qu'est le fruit de l'Esprit, qui est l'ensemble de toutes les grâces. Et j'avais demandé à Dieu de me donner un texte de conclusion et j'ai été conduit cette nuit à terminer ces textes par ce verset que vous trouvez dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Où nous lisons que les habitants de la terre, au verset 8e, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, puis je passe au verset 14, ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Pourquoi ? Parce qu'il est Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et puis qu'est-ce qui vaincra avec lui ? C'est tellement beau. Avec lui sont associés les appelés. Et je voudrais que vous puissiez vous souvenir de ces trois mots. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Les personnes qui sont avec Jésus sont appelées là, appelées, élus et fidèles. Ils sont avec lui. Et quand le Seigneur reviendra, il aura avec lui les appelés, les élus et les fidèles qui sont assurés d'être écrits dans le livre de vie. Et comment est-ce qu'ils seront vainqueurs? J'aurais pu ajouter, j'ai remarqué après qu'il y aurait eu juste encore un peu de place, chapitre 12 de l'Apocalypse, quand Satan est précipité du ciel sur la terre, lui qui était l'accusateur des frères, qui se tenait devant Dieu pour les accuser jour et nuit, il est dit, verset 11, eux l'ont vaincu, donc les croyants, les appelés, les élus et les fidèles, ont vaincu Satan. Eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire sur Satan? C'est par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et cette parole du témoignage, nous nous en emparons, et le Saint-Esprit aussi, au moment opportun, nous rappelle cette parole. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir la victoire, une victoire totale, une victoire complète. C'est le vœu que je forme à l'issue de cette retraite qui apparemment semble être la dernière ici, car suivant ce que nos sœurs font, je ne vois pas que je puisse continuer ici. Si on est cinq groupes, c'est trop. Et alors nous n'avons plus la même intimité. Les groupes se fréquentent, je n'ai rien contre cela si vous voulez, mais ce n'est plus le but de ces retraites. Ce n'est pas que vous puissiez rencontrer d'autres groupes qui n'ont pas du tout la même vision, mais c'est que nous puissions être vraiment ensemble pour méditer la parole de Dieu, nous instruire dans cette parole. Et j'ai remarqué quand même que quand nous sommes 90, un groupe de 90, et qu'il y a encore 4 autres groupes, ça fait 3. Parce que il y a la cohue, de sorte que cette dimension du silence que j'ai essayé de vous redonner alors qu'elle a été perdue, eh bien, elle risque aussi, cette dimension, d'être compromise. Alors, vous aimez ce lieu, je ne vous en prie pas. Vous pouvez y venir et vous y reposer, parce que, évidemment, dans les retraites, vous n'avez pas beaucoup de repos, mais enfin, si vous aimez ce lieu, vous pourrez toujours venir y passer un jour ou deux de vacances. Et puis, vous pourrez méditer pour vous-même. Mais pour un grand groupe, eh bien, il nous faut plus de solitude. Je vous le dis, je me tiendrai encore devant le Seigneur, et je verrai aussi ce que les sœurs peuvent me dire. Et vous serez avertis, absents, si c'est ici ou si c'est ailleurs, que nous pourrons nous réunir. Et tout cela, je demande au Seigneur qu'il nous conduise, et c'est pourquoi je voudrais que vous ayez la liberté ce matin de prier, vraiment, pour que le Seigneur nous dirige. Et je vous demande de le faire maintenant, nous avons encore quelques minutes.